Mardi politique, en partenariat avec Libération et l'AFP.
Pierre Firsion.
Et notre invitée ce soir, c'est Marine Le Pen, la présidente du Front National. On parlait en fin de première partie de cette coalition européenne que vous tentez de créer, Marine Le Pen. Vous ne passerez pas d'accord avec Nigel Farage, le leader du parti eurosceptique britannique UKIP. Vous lui avez proposé récemment de vous associer, mais il vous a opposé une fin de ne recevoir, ce qu'il avait déjà fait en novembre dernier. Nigel Farage.
Il y aura des eurosceptiques à l'extrême droite, des eurosceptiques là où on se situe, des eurosceptiques au Parti communiste pour entrer au Parlement européen en 2014. Nous n'avons pas l'intention de nous accoquiner avec l'un d'eux, le Front National français, et nous, nous avons des traditions politiques et un passif complètement différent. Quoi que Marine Le Pen essaie de faire avec le Front National, l'antisémitisme est toujours ancré profondément dans ce parti.
Antisemitism is still embedded deeply in that party. Alors Nigel Farage, que vous accusez également d'avoir un programme économique d'extrême gauche, qu'est-ce que vous lui répondez, Marine Le Pen ?
D'abord, je lui réponds qu'il a tort, que ses propos sont infamants et injurieux, et qui sont particulièrement étonnants de la part de quelqu'un qui s'est associé avec Nicolas Dupont-Aignan, qui lui-même vient d'accueillir dans son mouvement Monsieur Bourdoulex, condamné pour avoir dit que Hitler n'avait pas tué assez de Tziganes. Voilà.
Alors, c'est pas exactement dans son mouvement, c'est un rattachement politique au Parlement.
Ah bon, bah excusez-moi, mais enfin, quand quelqu'un se rattache à votre parti politique, c'est donc que vous êtes allié. Donc, monsieur Dupont-Aignan est allié avec monsieur Bourdoulex. Donc, peut-être que monsieur Farage ne le sait pas.
Et avec monsieur Jacques Bompard.
Quant à sa description de mon programme économique, ça m'étonne pas tellement parce que monsieur Farage est un ultralibéral, ce qu'il a le droit d'être dans son pays. Après tout, moi, je suis pour la souveraineté nationale. Et donc, qu'il considère que la volonté de mettre en œuvre un état stratège, de lutter contre l'hyper-austérité, de défendre les services publics et du gauchisme, bon, c'est pas très étonnant, venant de M. Farage. Ce que je tiens à dire, c'est que tout le monde n'est pas d'accord avec lui au UKIP. Et que je peux vous dire que moi, j'ai été l'objet d'un certain nombre de signes d'amitié et de l'expression de la part de membres du UKIP d'un désaccord avec cette ligne choisie par Nigel Farage. Donc, il ne fait pas obligatoirement aussi l'unanimité au sein de son propre mouvement dans les choix stratégiques qu'il semble faire, en tout cas au niveau de l'Union européenne. La réalité, pour vous, pour sans trahir de secret, c'est que M. Farage, pour l'instant, préside son groupe et qu'il veut continuer à présider un groupe et qu'il n'a pas envie d'être second dans un grand groupe. Il préfère être premier dans un petit. Bon, bah, c'est son choix.
Madame Le Pen,
moi, je veux dire, je ne vais pas en faire une maladie non
vous
plus.
Vous allez vous allier avec le Néerlandais Geert Wilders, qui a subi une large condamnation dans son pays pour avoir dit qu'il y avait trop de Marocains dans son pays et qu'il allait s'en charger. Vous pensez quoi de ces propos ?
Ça a choqué aux Pays-Bas.
Hein. Ça a choqué aux Pays-Bas. Écoutez, moi, je ne les aurais pas tenus, mais encore une fois, je considère que chacun est libre dans son pays de mener sa politique nationale. Je le crois pour Monsieur Farage et je le crois pour Monsieur Wilders. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels nous sommes en désaccord avec Monsieur Wilders. Vous l'avez d'ailleurs rappelé à de nombreuses reprises, notamment sur le mariage homosexuel. Mais l'important, c'est que nous ayons une vision commune sur l'Union européenne. Or, la vision que nous partageons sur l'Union européenne, c'est le refus d'une immigration de masse, c'est le refus de Schengen, c'est-à-dire de l'ouverture totale des frontières, c'est le refus des politiques d'austérité.
Mais c'est pas une vision que vous partagez, c'est des refus que vous partagez en fait.
C'est le refus de l'euro et en contrepartie, c'est la création d'une Europe des nations libres et souveraines où ce soit le peuple, les peuples, chaque peuple qui décide de sa monnaie, de son budget, de sa politique d'immigration, de sa politique sociale, de l'étendue de ses services publics, de ses lois, etc., etc.
On sait que vous voulez vous ne voulez pas vous allier avec le Jobbik hongrois ou l'Aube dorée grec parce que vous considérez que ces mouvements sont trop radicaux. Ça veut dire que les propos de Geert Wilders, par exemple sur les Marocains, sont des propos qui sont au moins tolérables.
Vous êtes procureur en chef, vous. Hein. Vous aimez bien ça. Hein, cette,
vous auriez c'est pu une question que je vous pose.
Non, mais vous auriez pu changer d'avis. Oui, je considère que, encore une fois, sans les partager, ces propos ne mettent pas M. Wilders dans le même sac que l'Aube dorée, qui est un mouvement néo-nazi.
Et Guillaume Dodin le disait, pas d'accord avec le...
Mais en revanche, j'aurais pas voulu Bourdoulex dans mon groupe. Voilà, je vous le dis.
Pas d'accord avec le Jobbik hongrois, hein.
Non, non, pas d'accord avec le Yubik hongrois.
Votre père avait passé des accords par le passé, mais là, c'est de
l'histoire ancienne. Oui, c'est vrai qu'il y avait eu, à l'époque, un rapprochement qui avait été fait, auquel j'ai demandé qu'il soit mis fin lorsque je suis arrivée à la tête du Front National. J'ai adhéré à l'Alliance Européenne des Libertés et j'ai demandé, ce qui a été d'ailleurs fait, que Bruno Gollnisch quitte la présidence de l'Alliance Européenne des Mouvements Nationaux dans lequel il y avait le Yubik,
et
que Jean-Marie
ans,
Le Pen en démissionne, ce qui a été fait également.
En deux ans, il me semble.
Ah oui, monsieur Dodin, ça s'appelle la diplomatie.
Mais ça signifie...
Et je vois que vous êtes plutôt adepte de la brutalité. Ça n'est pas mon cas.
Mais on peut vous faire crédit, effectivement, de tout ce dialogue que vous avez eu avec votre père, avec Bruno Gollnisch, sur ces questions-là. C'est symptomatique de quoi ? Un passé qui doit appartenir au passé et que vous assumez pas complètement.
Non, je ne crois pas. C'est symptomatique du fait que nous sommes aujourd'hui un grand mouvement politique, qui trouvons des alliés qui sont également des grands mouvements politiques.
Mais le Yubik, sur le plan électoral, ça pourrait être un allié autrement plus intéressant que.
Bah, je vais vous dire, je trouve plus de qualité à Monsieur Orban qu'au Yubik, voyez-vous. Bon.
Et le Yubik en plus avait des positions qui étaient antisémites, hein, ouvertement antisémites. Vous avez souhaité couper avec ces partis-là.
Oui, je souhaite couper avec ces partis-là. Je l'ai fait. D'ailleurs, je ne le souhaite pas. Je l'ai fait. Donc, on peut me juger sur mes actes. Vous voyez, qui ont été mes actes ont suivi mes paroles, ce qui est pas souvent en matière politique, faut bien le dire.
Une dernière question à propos des européennes. Votre père va se représenter dans le Sud-Est pour un sixième mandat, et à ce alors qu'il a 85 ans, est-ce qu'il ne faut pas passer la main à un certain moment, passer la main à la nouvelle génération ?
Oui, enfin la nouvelle génération est plutôt bien représentée dans l'ensemble des candidats qui sont présents dans ces élections européennes. Aymeric Chauprade en Ile-de-France, Florian Philippot dans l'Est, Louis Alliot dans le Sud-Ouest, Gilles Le Breton et tous ceux qui les suivront. Jean-Marie Le Pen a émis le désir d'être candidat. Très honnêtement, je ne vois pas ce qui pourrait me pousser à lui refuser ce plaisir-là.
C'est difficile de tourner la page Jean-Marie Le Pen ?
Non, il n'y a pas de raison que ce soit difficile. Je crois que la page a été tournée grâce à lui, d'ailleurs, car après tout, il a quitté sa présidence. Ça n'est pas souvent le cas dans d'autres mouvements politiques. Il a organisé démocratiquement sa succession, qui s'est bien passée, n'en déplaise à certains qui espéraient peut-être des tensions. Et je pense qu'il a véritablement, il s'est comporté comme un grand dirigeant politique en faisant cela.
Marine Le Pen est l'invitée ce soir de Mardi Politique sur RFI. Venons-en très rapidement aux élections municipales. C'était il y a 3 semaines. Faisons peut-être un premier bilan. Hein. 11 villes gagnées par le Front National, 1500 candidats FN élus au poste de conseiller municipal. Comment se passe l'installation des 11 maires Front National depuis 3 semaines ?
Eh ben, très bien. En tout cas, beaucoup mieux que ce qui était prévu. Hein. On leur avait annoncé que des dizaines de cadres municipaux quitteraient la ville en courant, qu'ils n'arriveraient pas à trouver des gens pour travailler avec eux, etc. En réalité, c'est faux, il n'y a eu que quelques départs. Ils se sont installés dans leur municipalité. La population a l'air d'être plutôt contente. Et ils commencent, pour un certain nombre d'entre eux, d'ores et déjà à œuvrer et à mettre en place les promesses qu'ils avaient faites lors de leur campagne municipale.
Et quelles vont être les premières mesures qui vont être mises en place, les mesures les plus emblématiques?
D'abord, les premières mesures, ce sont les audits financiers sur un certain nombre de villes. Là où c'est possible, la baisse des impôts. Et sans trahir de secret, ce sera le cas de l'annonce qui sera faite jeudi par Steve Briois et Hénin Beaumont, qui annoncera dès le premier budget, hein, donc 3 semaines après son élection, une baisse des impôts sur la ville. Évidemment, il faut maintenant mettre tout en œuvre pour assurer une meilleure sécurité des citoyens, pour relancer l'animation des villes, pour pouvoir mettre en place les politiques d'aide au petit commerce, pour pouvoir faire le tour des associations, du monde sportif, voir quelles sont leurs attentes, qui auraient été mis de côté injustement, par exemple, ou qui auraient été subventionnés contrairement à la loi dans d'autres circonstances.
Mais par exemple, là on comprend ce que vous allez offrir, vous expliquez qu'il y aurait une baisse d'impôts dans un premier temps, donc c'est forcément une baisse de ressources, au début en tout cas pour la commune. Voilà, comment est-ce que ça se finance ? Comment est-ce qu'on trouve l'équilibre ? Comment est-ce que la gestion, idéale ?
Ça dépend des villes, monsieur. Chaque ville est différente. D'abord, chaque ville a un niveau d'endettement qui est différent. Vous savez, par exemple, des villes comme Fréjus ou comme Le Pontet sont des villes absolument surendettées. Ça veut dire que les gestions dont elles ont bénéficié ont été catastrophique. Alors c'est parfois le fait d'erreurs grossières d'administration ou de gestion, c'est parfois le fait de gaspillage inouï sur lequel on peut faire des économies. C'est parfois le fait d'une utilisation clientéliste du budget de la commune, ce qui permet de tailler dans des dépenses qui sont inutiles, en tout cas inutiles à l'intérêt général. Donc chaque ville va travailler ainsi son budget, sa situation particulière, pour permettre de répondre aux engagements qui ont été faits, tout en permettant d'offrir à la population le plus grand service possible.
Et depuis Nanterre, vous suivez comme ça l'action de ces maires? Il y a une cellule qui est en place pour suivre précisément ce qu'ils font?
Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis ce qui se passe à Hénin-Beaumont parce que c'est ma ville, parce que j'ai été colistière sur la ville. Et donc, évidemment, je m'intéresse particulièrement à cette commune. Mais je ne suis pas de près l'ensemble des villes. Que
vos
les choses soient claires, les
suivent.
Villes ne sont pas sous tutelle. Je le répète, elles ne sont pas sous tutelle, elles ne sont pas sous surveillance. Il n'y a personne de Nanterre qui intervient dans les villes pour surveiller les maires. Les maires qui ont été élus sont des gens de grande qualité. Ils connaissent très bien leur ville et je leur fais une totale confiance pour les diriger de la meilleure façon qui soit.
Vous préférez qu'on dise que vous leur prodiguez des conseils ou des
recommandations? Non, je ne crois pas. Non, il y a des échanges d'informations qui se font. On s'échange parfois nos expériences. Ils s'échangent d'ailleurs entre eux leurs expériences. Mais objectivement, ou leurs bonnes idées, après tout, il y en a. Hein, on peut faire preuve d'imagination aussi dans la gestion des villes.
C'est pas forcément les plus capés qui ont été élus. On avait été assez surpris au soir du deuxième tour de se rendre compte qu'un Florian Philippot, qu'un Louis Alliot, qu'un Gilbert Collard n'avait pas été élu. Du coup, ça, c'est un manque à gagner en termes de candidats qui vous rassuraient, parce que de fait.
Non, moi, j'en ai pas été étonné. D'abord parce que
eux l'ont été un petit peu quand même a priori.
Oui, mais toujours quand on est engagé dans une bataille, on s'attend à gagner.
Mais c'était étonnant que ce soit trois de vos plus proches qui sont des poids lourds du parti. Non, mais c'est vrai pour le coup.
Je ne sais pas ce que vous en tirez comme analyse. La réalité, c'est que ce sont les trois les plus proches qui sont partis dans des combats les plus difficiles.
Celui de Gilbert Collard n'était pas franchement plus difficile.
Oh, c'est pas si sûr que ça quand on connaît les circonstances locales.
44% au premier tour, ça semblait.
Parce que à Forbach, par exemple, il n'y avait jamais eu de liste Front National. Donc nous n'avions pas d'implantation locale. Alors c'est beaucoup plus difficile de gagner une ville quand on n'a pas une implantation locale ancienne. Et en réalité, on s'aperçoit que dans l'immense majorité des cas, l'implantation existait depuis déjà un certain nombre d'années. Certains étaient déjà conseillers municipaux, d'ailleurs, de leur ville. Et c'est l'importance de l'implantation locale. Et c'est la raison pour laquelle, justement, j'ai voulu donner comme axe au Front National, comme stratégie, une implantation locale. Parce que je pense qu'on ne peut pas, de manière générale, gagner des municipalités, ni peut-être gagner des élections cantonales, si l'on n'est pas investi, implanté localement et si possible avec une certaine ancienneté.
Allez, il nous reste un petit peu moins de 7 minutes, on avance un petit peu. On va parler maintenant du programme de 50 milliards d'économies présenté la semaine dernière plutôt par Manuel Valls. Parmi les mesures annoncées, suppression de postes dans la fonction publique, maintien du gel des salaires des fonctionnaires, prestations sociales non revalorisées. Quel regard vous portez sur ce lourd programme d'économies? C'est une politique d'austérité selon vous?
Bah, évidemment, enfin, je ne sais pas qui peut dire l'inverse. Je veux bien qu'on utilise tous les synonymes possibles. Cible imaginable, c'est évidemment une politique d'austérité et de la même nature que celle qui a été imposée par l'Union européenne dans l'ensemble des pays d'Europe. Ça a été imposé en Grèce, ça a été imposé en Italie, ça a été imposé en Espagne, au Portugal. Alors on enclenche en quelque sorte la première de l'austérité et suivant, on passera la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et on terminera comme a terminé la Grèce si les Français ne réagissent pas et ne s'opposent pas clairement à ce pouvoir de l'Union européenne.
Mais concrètement, on les fait où? Est-ce que vous êtes d'accord sur le constat qu'il faut faire des économies? Et si oui, on les fait où ces économies?
Non, je suis d'accord sur le constat qu'il faut relancer la croissance et l'emploi. Or, je pense qu'on est en train de faire exactement l'inverse. La réalité, c'est qu'on ne peut pas faire une politique d'austérité sans mettre en place le changement du modèle économique qui permette de retrouver la voie de l'emploi. C'est une stupidité totale. La politique d'austérité contracte la croissance. Elle fait donc baisser le pouvoir d'achat. Elle fait donc baisser les recettes de l'État et donc augmenter les déficits et la dette. Donc c'est un trou sans fond, je veux dire, c'est un cercle vicieux qui ne fait qu'aggraver la situation économique du pays auquel cette politique d'austérité est imposée. Je remarque de surcroît que on fait toujours des économies sur les mêmes, sur les classes moyennes, sur les classes populaires, aujourd'hui sur les retraités. On n'a pas envisagé une seconde, par exemple, de faire des économies sur l'immigration. Non, le budget de l'immigration et de l'intégration, lui, il est sanctuarisé. Il faut surtout pas y toucher. Et pourtant, on apprend.
Et ça représente combien,
ça représente combien, vous l'évaluez à combien?
Pour l'instant, je vais vous donner juste des petits bouts, hein, parce que sinon, en gros, ça fait mal. Le droit d'asile, 850 millions d'euros. On a explosé les plafonds du droit d'asile. Pour une raison simple, c'est que ce droit d'asile, en réalité, est tout sauf un droit d'asile aujourd'hui. Il est une manière détournée de mettre en place une immigration.
850 millions d'euros par rapport à 50 milliards, c'est
non,
pas
mais attendez,
non plus.
850, l'AME, 800 millions d'euros. Vous voulez comme ça qu'on continue? Il y a énormément d'économies à faire sur l'immigration, mais on ne le fait pas pour des raisons idéologiques. De la même manière, la fraude sociale qui a été évaluée à 20 milliards d'euros. Il suffirait de mettre en place une carte vitale biométrique. En 3 mois, on arrête les fausses cartes vitales qui sont une déperdition pour le budget. Ça n'est pas fait. Je vous donne un autre exemple.
De 3-4 millions d'euros, plus important, c'est peut-être la fraude fiscale. Ah non,
mais monsieur, pour lutter contre la fraude fiscale, il faut qu'il y ait des frontières. Donc à un moment donné, il faut aussi arrêter les incohérences. Voilà, on a voulu supprimer les frontières, eh bien c'est le règne de la fraude fiscale, puisque chacun passe les frontières sans aucun contrôle. Alors moi, je veux lutter contre la fraude fiscale, mais moi je suis cohérente, je veux à nouveau des frontières. La directive détachement des travailleurs, c'est 2 milliards de pertes pour les comptes sociaux. 2 milliards de pertes sèches évaluées par le Sénat. Vous voyez, c'est milliers, dizaines de milliers, mais maintenant centaines de milliers de travailleurs détachés que l'on a acceptés à cause de la directive détachement des travailleurs soutenue par l'UMP et par le PS. Alors vous voyez que des économies dans les gaspillages, on peut en faire. Dans l'organisation territoriale, il y a dans chaque commune des groupes de conseillers municipaux, de majorité ou d'opposition, qui ont droit à des moyens, à des locaux, à des salariés. Eh bien, on a créé des communautés d'agglomération. Eh bien, dans ces communautés d'agglomération, non seulement les élus à la communauté d'agglomération, les vice-présidents, ont le droit à une indemnité supplémentaire à leur indemnité de conseillers municipaux, mais de surcroît, ils ont droit encore à des locaux, ils ont droit encore à des salariés. C'est-à-dire qu'on a démultiplié par cette décentralisation anarchique le coût que ça représente. C'est Monsieur Seguin qui le disait. Feu Monsieur Seguin avait fait un rapport de la Cour des comptes sur ce sujet en disant que la décentralisation anarchique, ça coûtait 4 milliards d'euros par an. Alors ça, plus ça, plus ça, plus ça, croyez-moi qu'il y a largement des économies à faire, mais
le gouvernement d'ailleurs propose de revenir sur le nombre de strates. Si on parle des collectivités territoriales, le gouvernement a proposé de diviser par deux le nombre de régions et de supprimer à terme les départements. On va pas trop avoir le temps de vous poser la question.
Oui, mais je suis en désaccord avec cela. Ça, c'est la landérisation de la France. C'est l'adaptation de la France au modèle allemand. Rejette le modèle allemand car je suis attaché au modèle français.
Et vous êtes attaché.
Et les Français aussi d'ailleurs.
Est-ce que vous êtes attaché notamment aux départements, hein, en particulier?
Oui, tout à fait.
Il nous reste une minute, un petit peu plus d'une minute. On aurait bien aimé vous entendre sur la politique étrangère. Très rapidement, Manuel Valls est aux affaires depuis 3 semaines maintenant. Quel regard vous portez sur le personnage en 2-3 mots? On le sent assez populaire dans l'opinion.
Oui, mais ça durera pas. Et je pense que déjà, là maintenant, il doit l'être moins populaire, puisque les Français ont pensé qu'il changerait la politique menée par François Hollande. La réalité, c'est qu'il l'a accélérée. Il fait comme héros en pire et en plus vite, et en plus grave, et en plus violent, et en plus brutal. Eh bien, je ne suis pas du tout sûr que les Français trouvent cela positif. Donc, moi, je ne m'attendais pas à plus de lui. Ce gouvernement est un gouvernement technique qui prend ses ordres à Bruxelles, et accessoirement parfois à Berlin, et en matière internationale à Washington. Et ça ne changera pas, hélas. Le seul moyen de changer, c'est d'aller voter.
Allez, un petit dernier mot sur la situation en Ukraine avec cet accrochage qui a fait plusieurs morts le week-end dernier. Vous craignez qu'aujourd'hui une escalade de la violence dans le pays?
Bien sûr que je la crains. Je crains une guerre civile, bien entendu. Et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé, me semble-t-il, la seule solution viable pour permettre à l'Ukraine de rester unie et indivisible, qui est une forme de fédéralisme appliquée à l'Ukraine avec des régions qui auraient une part d'autonomie qui leur permette de continuer à vivre ensemble, vu que manifestement, elle ne regarde pas dans la même direction.
Guillaume, Vladimir, il nous reste 30 secondes.
Vladimir Poutine a finalement reconnu que des forces russes étaient présentes en Crimée lors du référendum, alors qu'il avait dit le contraire pendant presque un mois. Est-ce que vous pensez qu'il était temps qu'il admette ce fait?
Très rapidement.
Moi, je ne pensais même pas que ça avait été nié, puisque l'ensemble des télévisions ou des médias présents savaient pertinemment qu'il y avait des Russes qui étaient présents. Mais la Crimée, d'ailleurs, est quasiment intégralement russe. Et on a vu d'ailleurs le taux de participation. Merci et on a vu les résultats du référendum.
Merci beaucoup Marine Le Pen. L'émission s'arrête là. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous donne rendez-vous.